France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La droite s'enfonce dans la crise, 10 jours après la cinglante défaite aux européennes et 3 jours après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence du parti Les Républicains. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, annonce qu'elle quitte le parti. Elle dénonce un verrouillage de l'intérieur. Plusieurs figures Les Républicains ont dans la foulée annoncé leur départ également. Ses proches, Florence Portelli ou Maëlle de Calan, mais également notamment le député Robin Reda et le maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Dans les moments difficiles, on ne quitte pas le navire. Voilà ce que déplorait hier soir Éric Ciotti, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Nous reviendrons sur cette actualité dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, nous irons à Lyon où des perquisitions ont eu lieu hier au domicile de Gérard Collomb et à la mairie de Lyon. Gérard Collomb est visé par une enquête préliminaire après des soupçons de détournement de fonds. Il rejette en bloc ces accusations et indique être interpellé par la période choisie après les européennes et juste avant l'ouverture de la campagne pour les municipales. Les cérémonies du débarquement en Normandie se poursuivent ce jeudi, 75 ans après le 6 juin 44. Emmanuel Macron est attendu ce matin à Ver-sur-Mer avec la première ministre britannique Theresa May, à Bayeux également, où il rencontrera 2 vétérans français. Une cérémonie franco-américaine est ensuite prévue au cimetière américain de Colville-sur-Mer avec le président Donald Trump. Fiat Chrysler estime que les conditions politiques actuellement en France ne sont pas réunies pour une fusion avec Renault. Le constructeur automobile italo-américain retire donc son offre pour le moment. Il juge qu'il ne parviendrait pas à obtenir un accord du gouvernement français. Et puis, notez que l'ONU rapatrie du Soudan ses employés non essentiels alors que la vague de répression de lundi dernier aurait fait plus d'une centaine de morts. Hier soir, les responsables de la contestation populaire ont rejeté l'offre de dialogue des militaires au pouvoir.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent « En lisant, en écrivant », une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Mardi 11 juin à 18h30, retrouvez Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour « Le serment sur la chute de Rome » et « À son image ». Une rencontre animée par Lucille Como. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Au programme de ce réveil culturel ce matin, les chansons pop mélancoliques d'un vieux trentenaire décidément pas prêt à devenir adulte. À l'occasion de la sortie de son 3e album chanté en français, l'auteur, compositeur, interprète Séverin est mon invité.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Quand bien même il y a des matins sombres où je peux pas écouter ta peine, où je veux profiter de ma pénombre sans devoir me lever à ton réveil, quand bien même y a tout qui déconne, quand on veut plus personne, quand bien même tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Et si chaque jour fait de nouvelles raisons pour rester caché sous la couette, quand bien même on est les otages d'un monde qui attend plus qu'une allumette, quand bien même ça tourne pas rond, si demain nous inquiète, quand bien même tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Et je sème ces mots à toi seul qui me rappelle que les orages sont plus beaux quand on s'aime. Ça ne tient qu'à nous de sortir du lit et d'ouvrir en grand les fenêtres, de crier à tous nos voisins qu'il est urgent de faire la fête, quand bien même le cœur n'y est pas, je m'accroche à toi. Quand bien même, tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Et je sème ces mots à toi seul qui me rappelle que les orages sont plus beaux quand on s'aime.
Des chansons d'amour, on en fait depuis des siècles, mais qu'est-ce qui fait que certaines nous touchent plus que d'autres ? Bonjour Sébrin.
Bonjour.
Mais peut-être qu'avec vous, c'est le spleen contemporain que vous injectez dans vos chansons. Parce qu'effectivement, quand le monde nous échappe dans on ne sait quelle direction, quand on désespère de notre vieille démocratie, quand on a peur des lendemains, autant de thèmes qui reviennent souvent depuis des années, des décennies, bah vous les marquez bien dans l'époque d'aujourd'hui.
Bah merci. C'est un très beau compliment. Mais c'est ça l'idée de cette chanson, ouais.
Quand bien même, donc, oui. Et l'album s'appelle
Transatlantique.
Voilà, très bien. Voyage donc.
Oui, ben c'est ça, mais c'est un peu ça qui est dans cette chanson et je pense dans d'autres. Moi, c'est ce besoin de trouver une issue positive, souvent, au monde qui nous entoure. Donc, ça peut être dans cette chanson, quand bien même, quand tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Ce qui est, je pense, pour moi, un leitmotiv et quelque chose qui est récurrent dans ma façon de voir les choses.
Votre album, c'est le troisième qui est en français.
Au troisième, ouais.
Et vous êtes très inspiré, d'ailleurs la langue française vous inspire. J'ai du mal à imaginer que vous avez commencé dans la musique en chantant en anglais.
Bah oui, ça c'était... je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ont fait ça.
Pourquoi c'est plus facile de jouer sur scène ou de faire de la musique quand on passe par l'anglais ?
Je pense surtout que dans mon cas, c'est l'envie de faire de la musique est d'abord venue par l'amour de la musique. Et en étant adolescent, c'était plutôt la musique anglo-saxonne, moi, qui m'inspirait. Et pas tellement les textes en fait, c'est pas tellement quelque chose qui m'attirait, c'était plutôt vraiment la musicalité, et en ça c'est plus facile de chanter en anglais, parce que quand c'est pas votre langue maternelle, les mots ont moins d'importance, ça peut être plus pop, et vous êtes moins obligé de définir vraiment un vocabulaire, votre champ lexical, etc., alors que quand on passe en français, là il faut s'exprimer.
Qu'est-ce qui a fait que 15 jours, c'est vrai, vous avez décidé de passer à la langue française ?
Je pense que c'est la maturité.
Ouais.
Le grand âge, c'est l'envie de vouloir dire des choses. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en anglais, je ne faisais que en fait citer d'autres chansons anglaises et faire un genre de méli-mélo, de méga mix de mots que j'avais entendus. Voilà, parce que c'était pas ma langue maternelle. Si on veut chanter l'amour dans sa langue, enfin pour être précis, quand on chante l'amour ou autre chose, mais il faut utiliser sa langue maternelle, sinon c'est un peu fake. Pour d'utiliser un mot anglais.
On peut parler effectivement d'amour, puisque c'est le thème central de cet album. C'est aussi comment faire avec l'amour. Quand les habitudes s'installent,
ouais.
Quand les peurs rythment le quotidien, est-ce que l'amour c'est un refuge ?
Je crois pas avoir la réponse. Mais oui, c'est central, c'est central. C'est pas que l'amour dans le couple. Je pense que dans mon disque, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour des disparus, c'est l'amour parental. C'est un mélange de tout ça. Mais c'est peut-être un constat que je fais en vieillissant, mais c'est toujours ça, finalement, la finalité de tout et la seule chose qui a vraiment du sens.
Il y a un côté quand même désabusé dans vos propos.
Mais je sais pas si c'est désabusé pour moi, je sais pas vraiment, c'est plus chercher des refuges et des moyens de passer sa vie et le mieux possible. Et voilà, en cherchant des refuges, donc là je parle de partir en vacances ou quoi, mais c'est des images.
Et de ne plus voter.
Oui, mais là encore, il y a une chanson, oui, qui s'appelle L'abstentionnisme, mais c'est pas le refuge, c'est pas de pas voter, parce que cette chanson, je l'ai écrite en allant voter, parce que j'ai toujours voté, et pour moi, ça me semblerait bizarre de pas voter, parce que je suis bien élevé, et que ça fait partie de moi. Mais c'est plus chercher, là, dans cette chanson, je cherche l'abstentionniste qui est en moi, donc j'essaie de comprendre ceux qui ne votent pas, et en même temps, je les comprends. Pour le désamour de la politique ambiant et pour toutes ces choses-là. Mais en même temps, c'est pas qu'un constat d'échec, c'est plutôt un appel à l'urgence de faire des choses et à voter.
C'est vrai, vous êtes auteur, compositeur et même arrangeur. D'ailleurs, avant même de travailler pour vous-même, vous avez arrangé, réalisé des morceaux pour d'autres chanteurs.
Oui, surtout beaucoup de chanteuses. Comme j'ai commencé avec un disque où j'avais fait chanter 14 femmes, C'est surtout des chanteuses qui m'ont appelé.
Camila Jordana.
Oui, le premier disque Camila Jordana ou Rose ou d'autres chanteuses. Et c'est quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment un autre métier complètement que celui d'être sur scène ou d'écrire ses propres chansons. Mais c'est plus un métier un peu de directeur artistique. Mais
comment on devient directeur artistique en musique, c'est vrai?
Ça, c'est le hasard des rencontres, je crois. Mais même faire de la musique, c'est le hasard des rencontres, honnêtement. Moi, j'ai jamais pensé que je serais musicien ou que je ferais des interviews comme ça aujourd'hui, voyez-vous. Ça vient plus petit à petit.
Mais vous avez commencé à écouter de la musique, à pratiquer de la musique. C'est quoi votre parcours?
J'ai d'abord fait des études parce que je viens d'une famille où faire des études, c'est primordial. Et donc, il fallait trouver des études.
Vous avez opté pour quoi?
J'ai opté pour le... J'ai fait une école de cinéma parce que je pensais que c'était les seules études qui avaient l'air sérieuses et artistiques. Enfin, en tout cas, c'était pour rassurer mes parents. Et résultat, je n'ai fait que fumer des joints et rencontrer des gens. Mais ça m'a ouvert quand même sur plein de gens différents. Et finalement, voilà, j'ai fait des musiques de films. Et voilà, petit à petit, j'ai rencontré d'autres musiciens. Et j'ai fait un premier groupe qui a fini en maison de disques. Et là, je me suis dit que ça pouvait être professionnel.
Mais quand vous dites « j'ai fait des musiques », c'est-à-dire, pour être plus précis?
Des musiques de films, c'est-à-dire sur les films de l'école, etc. Donc, j'ai jamais touché tellement une caméra. Je me suis toujours retrouvé du côté du son et de... Mon ambition de départ, c'était de faire des comédies musicales. Pour des parents, je pense que c'est rassurant. Un enfant qui vous dit qu'il veut faire des comédies musicales, plus rassurant qu'un enfant qui vous dit qu'il veut être chanteur à texte et faire des disques. Donc voilà, c'était une issue positive et j'adorais les films de Jacques Demy à l'époque.
Et vous avez appris la musique avec un instrument de musique en allant au conservatoire ou c'est avec les ordinateurs?
J'ai commencé avec la clarinette au conservatoire, mais que j'ai vraiment détesté, donc c'était un vrai cauchemar. Et puis j'ai découvert la guitare, et comme un adolescent boutonneux assez classique, j'ai découvert la puissance de la guitare et l'impact que ça avait sur les gens. Et ça m'a séduit très vite.
Pour cet album, ce troisième album, c'est vrai, vous avez tout fait tout seul, c'est-à-dire que c'est un album autoproduit, on peut le dire.
Oui, financièrement autoproduit, avec mon label, etc. Après, tout seul, non, pas du tout, c'est une vraie équipe, il y a 15 personnes qui travaillent sur le disque, en fait, parce que il y a 5 musiciens, il y a 11...
Que vous avez invité chez vous?
Non, là, c'est vrai, dans un...
Vous avez pris un studio?
Oui, c'est Marlon, qui est un producteur en vogue, comme on dit, qui a fait Juliette Armanet dernièrement, ou Brigitte, et qui a son studio. Et donc voilà, je lui ai confié la clé du bateau. Et c'est lui qui a dirigé toute l'équipe, et qui a fait le travail que moi je fais sur d'autres, par ailleurs. C'est-à-dire, c'est ça le travail de réalisateur artistique aussi. Et là, c'est lui qui a pris toutes les commandes, et moi je n'ai été que chanteur.
Auteur, compositeur aussi.
Bien sûr. Oui, c'est le travail en amont, ça, c'est d'écrire les chansons chez soi, et d'abord de trouver quelque chose à dire quand même.
Alors comment vous écrivez chez vous, Séverin?
Justement là, je voulais revenir à l'essence des chansons. Donc j'ai composé tout chez moi vraiment, alors que j'ai un studio par ailleurs, mais là je suis resté chez moi en enregistrement avec une guitare sèche, très simplement sur un ordinateur portable. J'ai voulu retrouver quelque chose qu'on a au début. Quand on commence la musique, c'est-à-dire très peu de moyens, et c'est d'abord les chansons qui priment.
Avec une envie de raconter quelque chose, de dire quelque chose, ou ce sont des humeurs de l'époque que vous viviez, que vous avez essayé de traduire en chansons, en musique?
Ça, je pense que ça se pose pas tellement comme un concept avant de faire les chansons.
Voilà, c'était ça la question. Êtes-vous conceptuel, c'est vrai?
Non, je suis pas un artiste conceptuel. Moi, je suis un artiste du quotidien. Ce que je veux, c'est raconter des histoires vraies qui m'arrivent, ou parler de mon entourage, et que ce soit juste. C'est ça mon objectif.
Non, mais je le disais en introduction de cet entretien, que votre album est cool, mais oui, c'est un album cool, d'un dandy amoureux, on peut le dire, mais il y a aussi toutes les inquiétudes de l'époque dans votre disque.
J'espère. Mais parce que j'espère que ça me ressemble, et j'espère ne pas être totalement déconnecté du monde dans lequel je vis.
Et des refrains qui collent à la peau.
Ah oui. Ah.
Vous commencez par les refrains? C'est une fois que vous avez trouvé le refrain que vous avez la chanson, ou une fois que vous avez le gimmick ou la rythmique
Non, il n'y a pas de règle. Ça dépend des morceaux. Je pourrais vous dire, pour chaque morceau, il y en a qui, où vraiment ça vient des couplets, ou que j'écris sans musique, donc purement du texte. Et de temps en temps, par contre, j'aime bien avoir des mélodies en marchant dans la rue, donc il peut m'arriver d'avoir des idées de refrain.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Si un jour notre ciel devient gris, avant que l'on perde notre envie, si nos sourires n'ont plus d'éclat, parle-moi, parle-moi. Et si j'oublie de te regarder, que notre vie est trop installée, avant que notre amour devienne flou, parlons-nous, parlons-nous. Qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des flammes, qu'il y ait des rires, qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des pleurs, ça m'est égal. Tant que le silence ne s'installe pas, parle-moi. Voler nos affaires, que les bougies puissent faire des éclairs. Car si le cœur n'est plus jaloux, parlons-nous, parlons-nous. Avant que je m'imagine dans d'autres lits,
parle-moi.
Que tu te fasses belle quand je suis parti,
parle-moi.
Pour qu'on reste toujours debout, parlons-nous, parlons-nous. Qu'il y ait des flammes, qu'il y ait des rires, qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des pleurs, ça m'est égal. Tant que le silence ne s'installe pas, parle-moi.
Parle-moi, un autre extrait de votre troisième album, c'est vrai, Transatlantique, c'est le titre de l'album. Belle chanson sur le couple.
Oui.
pour les vieux trentenaires qui devaient écouter cette chanson.
Pourquoi les vieux trentenaires? Je pense que le
dialogue... Parce qu'on sent bien qu'il y a déjà eu au moins une dizaine d'années...
Entre, du vécu.
De vécu entre elle et lui, entre vous et elle.
C'est vrai. Mais ouais, peut-être. Peut-être que c'est une chanson de trentenaire. Mais non, c'est le dialogue dans le couple, vous savez. Ça, c'est... Mais c'était peut-être valable quand on avait 20 ans, non?
Aussi?
Non, je sais pas. Bah oui, mais encore ce matin, j'étais avec ma femme en train de lui dire « parle-moi », sans la chanter, hein, je veux dire, en lui disant.
Et cette idée de mettre des musiques plutôt joyeuses quand les propos ne le sont pas forcément au premier degré, c'est une idée de vous en tant qu'artiste, auteur, interprète, ou c'est le réalisateur de votre album, c'est vrai?
Non, ça c'est... Mais c'est pas encore une idée, parce que moi, je réfléchis vraiment pas en termes de concept tellement avant de le faire, mais ça c'est plus mes influences brésiliennes de par ma femme, et voilà, de beaucoup d'influences comme ça métissées que j'ai en moi depuis longtemps, et c'est ce que j'aime, et c'est vrai que c'est souvent le cas dans la musique brésilienne, c'est-à-dire que ça peut être des paroles assez tristes, la saudade et tout, vraiment avec quelque chose de mélancolique, mais toujours avec une musique assez joyeuse, et ça j'aime, moi ça, j'aime ce côté-là qui est peut-être pas souvent très français, parce que les Français souvent aiment bien être mélancoliques dans les paroles et dans les textes, et vraiment y aller profondément là-dedans. Moi, j'arrive pas tellement à faire ça. Et comme dans la vraie vie aussi, c'est que j'aime bien sourire, même dans les enterrements. Donc c'est voilà, c'est ma façon de faire ma façon de m'exprimer, je crois.
À quel moment une chanson existe? C'est au moment où vous l'écrivez, au moment où vous avez trouvé la mélodie, au moment où vous l'enregistrez, ou au moment où vous l'interprétez sur scène, c'est vrai?
Pour moi, elle existe quand elle est finie d'être écrite, avant d'être enregistrée. Ouais, c'est vraiment ça, parce que j'ai des centaines de morceaux chez moi, dans mon téléphone ou dans mon ordinateur, qui sont des morceaux, ou qui sont presque des morceaux, mais qui n'ont pas trouvé leur point final. Et
qu'est-ce qui leur manque?
Bah, il leur manque soit un vrai refrain, soit mais ça peut être même, il peut leur manquer trois phrases en fait qui donneraient qui rendraient le morceau beau, intelligent, sensible ou quoi. J'ai pas mal de morceaux qui commencent très bien, et puis un moment on se perd dedans, et puis il reste pas grand chose à la fin de l'écoute. Et ces morceaux-là, je les jette généralement.
Est-ce que vous vous inscrivez dans une certaine tradition de la chanson pop française, c'est vrai?
Ah bah oui, je crois, oui.
C'est-à-dire que si jamais je cherche un père, si jamais je vous cherche un père du côté de, je sais pas, Étienne Daho et Alain Chamfort, je suis dans la bonne direction ou
vous êtes pas dans l'erreur.
Mais même si vous les avez pas du tout écoutés quand vous étiez adolescent.
Ouais, mais Étienne Daho j'avais écouté un peu. Ouais. Mais Alain Chamfort pas tellement. Mais bien sûr, ça fait partie de l'ADN musical français aussi, donc on peut pas en fait passer outre si on a écouté un peu et qu'on s'est intéressé à la musique.
Alors, puisque vous avez une jeunesse plutôt anglo-saxonne, électro-rock, ouais. Et que maintenant dans l'âge adulte et vous vous posez dans le musical français, dans l'histoire de la chanson ouais. française, qu'est-ce qui change fondamentalement
dans les musiques qu'on écoute? Bah dans les musiques qu'on écoute, je peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai perdu non plus toutes mes influences anglo-saxonnes parce que je continue à les écouter. C'est le texte, c'est vraiment le texte pour moi la différence entre ces deux musiques-là, entre la musique anglo-saxonne. Évidemment qu'il y a je veux pas dire qu'il y a pas de poésie et de mots dans les musiques anglo-saxonnes comme les Dylan et tout ça. Il y a une vraie chanson à texte, mais quand même l'importance des mots en français. Elle est cruciale. Il y a pas tellement de Led Zeppelin, par exemple, en français. Ça serait assez bizarre de dire bébé, bébé pendant 3 minutes 30. Alors que la langue anglaise permet de faire ça. Donc voilà, c'est le poids des mots. Donc, c'est une contrainte et c'est quelque chose de génial. C'est que, voilà, le choix des mots dans Gainsbourg, c'est magnifique. C'est quelque chose de très intense et quelque chose que j'adore découvrir et qui permet, je trouve, de faire vivre les chansons très longtemps.
Et comment ils arrivent les mots chez vous, c'est vrai? Vous êtes entouré de dictionnaires ou pas du tout?
Non, pas tellement, mais je peux pas nier qu'il y a une part de mon éducation en fait qui est aussi dans ma musique. C'est-à-dire que j'ai de la chance d'avoir toujours baigné dans un milieu culturel très riche. Et ma mère étant journaliste, mon père économiste et tout, donc je pense que l'importance des mots, elle était là en fait déjà très tôt.
Par les livres,
oui.
La poésie et la chanson?
Bien sûr. Mm-hmm. Mon père, c'était un fan de René Char ultime. Donc j'ai été baigné là-dedans, j'ai eu cette chance-là, donc ça c'est quelque chose où j'ai pas eu tellement à travailler pour ça, et on m'a forcé à lire en fait presque quand j'étais petit, qui était pour moi une douleur et qui en fait maintenant aujourd'hui je me rends compte l'importance que ça a eu. Et après par contre c'est tout ce chemin a été aussi de trouver mon propre langage et mes propres mots. Moi, et ce que je veux dans mes chansons, c'est que ça ressemble à mon langage parlé. Je veux pas chercher à... Je veux que ce soit simple et direct, toujours.
Il y a une chanson dans votre album, qui clôt l'album, qui s'appelle « 30 minutes après ma mort ». Par exemple, s'il fallait nous raconter la jeunesse de cette chanson, c'est vrai?
C'est deux choses. C'est... D'une part, ça parle un peu de la mort de mon père, parce que voilà, c'est... Ce moment où quand vous avez un proche qui disparaît, tout le monde vous dit qu'il était génial et vous avez un peu envie de dire à tout le monde qu'il aurait fallu le faire quand la personne était encore là. Ça, c'est un souvenir d'enfance que j'ai vraiment eu, qui m'a marqué. Et à côté de ça, c'est aussi la mort de Hubert Mounier, en l'occurrence, le jour où j'ai écrit cette chanson-là, qui était le chanteur de l'affaire Louis Trio. Et je connaissais peu, mais je voyais tout le monde sur Internet être là, rest in peace, magnifique chanteur, etc. Et en lisant un peu sur lui, on découvrait que il avait passé les 10 dernières années de sa vie vraiment isolé, tout seul, assez abandonné. Et voilà, je trouvais ça paradoxal, cet amour internet soudain qui allait durer 40 minutes face à quelqu'un qui avait fait des magnifiques chansons et qui avait fini complètement abandonné.
J'ai connu mon heure de gloire, environ 2 années de mon vivant. Où j'ai été la bête de foire, celui avec qui on veut passer du temps. J'ai connu le succès, la jalousie, et puis l'oubli. Et j'ai vu partir sans un bruit, ceux qui m'aimaient dans la lumière, pour entrer dans les années sombres. 30 minutes. Car quand mon heure est arrivée, la vraie, celle qui vous laisse inanimée, il n'y avait personne pour m'applaudir, il n'y avait personne depuis des années. Il y a 30 minutes, je m'éteignais. Je trouvais l'apaisement radical dans un dernier souffle discret. C'était il y a 30 minutes. 30 minutes. Et voilà qu'on parle de moi au passé. L'information a circulé. Et celui que j'étais il y a 31 minutes laisse place à l'immense larme qui vient submerger la toile. aura suffi de 30 minutes et ma page Wikipédia reprend vie en annonçant ma mort. Les souvenirs, les anecdotes, les ennemis qui hier encore m'auraient passé les menottes se pressent pour fleurir ma porte. C'était il y a 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes.
Vous ne chantez pas seulement, minutes. Vous pouvez aussi interpréter un texte sur de la musique, c'est vrai.
Oui. J'espère que je l'interprète justement. Mais oui, c'est une autre façon de chanter en fait, parler. Ça permet une certaine liberté quand même. Chanter, c'est forcément un peu une prison parce qu'il faut respecter quand même un peu une mélodie et puis un tempo. Le parler, ça vous permet vraiment d'être totalement libre. Et là, ça se prêtait bien à ce texte-là. Je finis la chanson en la chantant. Mais je commence en parlant parce que voilà, j'ai écrit le texte à froid, complètement sans musique, et c'était comme ça que j'étais le plus libre pour le dire.
Vous tournez avec les mêmes musiciens depuis quelques années, c'est vrai, ou...
Oui, j'ai toujours, en tout cas deux de mes musiciens qui sont là depuis longtemps maintenant, oui. J'aime bien, c'est partir en tournée, c'est autre chose, c'est un autre métier, mais c'est bien que ce soit un peu familial.
C'est un autre métier. Est-ce que c'est d'autres versions de vos morceaux que vous présentez au public ou vous essayez de respecter la structure de la chanson telle qu'elle a été livrée en disque, diffusée en radio?
Non, on l'adapte pour qu'elle soit le mieux possible avec le nombre de musiciens qu'on est parce qu'on peut pas être 5 sur scène, c'est toujours un peu compliqué en 2019. Donc on est un peu moins nombreux et donc il faut s'adapter. Mais moi je veux que, par contre, il n'y ait pas trop d'ordinateurs, etc. qui tournent derrière. Donc je veux que ça reste assez fragile. Donc on fait au mieux avec nos moyens.
Et vous serez en tournée à partir de septembre, c'est ça? À partir, ouais, de la rentrée. Mais on peut vous voir en concert le 28 mai, puisque vous partagez le Zénith de Strasbourg avec M.
Tout à fait. Ben là, c'est des premières parties, ouais, j'en fais plus quelques-unes avec M. Avant son spectacle, pour ouvrir l'artiste. Mais je sais pas si ça se dit, ça. Je suis pas sûr.
Parce que vous vous connaissez? Ou c'est une idée du tourneur?
Non, je le connais pas. Je vais le rencontrer, là, pour ça. C'est assez classique. Quand un gros artiste comme M, qui fait des tournées gigantesques, il a cette gentillesse de proposer à des artistes qu'il aime bien de faire des dates pour être là avant son concert. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le faire.
Merci Séverin, je rappelle que votre album, troisième album en français, Transatlantique, est sorti. On peut réécouter cette interview en passant par franceculture.fr. À la coordination, Corinne Amar, aidée par Maëlle Ray. À la réalisation, Vincent Bouchard, assisté à la prise de son par Zoued Boukarsa. Le réveil culturel, c'est très tôt à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, si vous êtes abonné au podcast de l'émission. Merci Séverin, bonne journée.
Merci à vous, à très bientôt.
Sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture à 15h, la compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est l'un des grands écrivains algériens du XXe siècle, mais c'est en français, durant la guerre d'Algérie, qu'il a fait paraître son livre le plus célèbre, Nejma, un demi-siècle avant sa traduction en arabe. Cet auteur, c'est Kateb Yassine, et ce choix paradoxal d'écrire dans la langue du colonisateur, nous le questionnons cette semaine dans la compagnie des auteurs, tout comme nous parlons plus largement de son œuvre de poète et de dramaturge.
La compagnie des auteurs, de lundi à jeudi à 15h et sur franceculture.fr. Une personnalité décline en 5 dialogues, un enjeu contemporain. Chaque soir, matière à penser sur France Culture.
Cette semaine, l'historien Patrick Boucheron.
L'histoire peut-elle donner matière à penser? Oui, sans doute, mais pourvu qu'elle se montre accueillante à tout ce qui la déborde.
Et si la notion d'homme moderne était dépassée? Préhistoire et modernité, cette semaine dans Matière à penser. Histoire, anthropologie, art, véritable machine à remuer le temps. De lundi à vendredi, archéologue, historien de l'art, écrivain, invité de Patrick Boucheron, dès 22h15 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Il débarquait il y a moins de 6 heures en 1944, les Alliés libérant la France de l'occupation nazie en arrivant sur les plages normandes. Cérémonie et hommage 75 ans plus tard, ce jeudi, en présence de dirigeants mondiaux. Nous vous raconterons dans ce journal l'histoire du premier soldat français mort en arrivant sur les côtes françaises. Nous nous pencherons ensuite sur cette journée nationale de mobilisation aux urgences. Une manifestation est notamment prévue à Paris. Malgré des négociations depuis des semaines, les professionnels ont l'impression de ne pas être compris par le ministère de la Santé. Valérie Pécresse quitte le parti Les Républicains en femme libre, dit-elle. Elle estime ne plus avoir les moyens de changer le parti de l'intérieur, vous le comprendrez. Et puis pourquoi la plateforme YouTube interdit-elle les vidéos prônant la discrimination ou la ségrégation? Réponse dans moins de 10 minutes. Il y a 75 ans tout juste débutait la plus importante opération militaire jamais déclenchée. Le 6 juin 1944, 150 000 hommes, 11 500 avions, 7 000 navires étaient projetés sur les plages normandes. Le D-Day a fait plus de 10 000 morts. L'un des premiers à tomber dans la nuit du 5 au 6 juin, il y a donc 75 ans très exactement. L'un des premiers à tomber fut un parachutiste français, Émile Bouettard. Son histoire est racontée par Franck Cognard.
Pour ses camarades, il était petit vieux, parce qu'à 28 ans, il était l'un des plus âgés de l'unité. Pour les forces aériennes françaises libres, il était Bouettard, Émile, Pierre, Augustin, Étienne, matricule 35-410. Le 6 juin, à minuit 45, après 1h30 de vol depuis l'Angleterre, le caporal Bouettard est parachuté avec son unité, comme le raconte le film Un jour avant l'aube.
Et vous sauterez les premiers, en Bretagne.
Et pourquoi la Bretagne?
Il y a en Bretagne 10 division allemande. Et en aucun cas, nous ne devons se rendre à Normandie.
Le parachutage est imprécis. Le groupe du caporal Bouettard se pose à plus d'un kilomètre de l'endroit prévu et vite repéré par un détachement nazi composé d'Ukrainiens ou de Géorgiens, chargé de protéger ses opérateurs radio. Émile Bouettard, fils d'agriculteur de la Manche, décrit comme gentil, comme posé, comme très volontaire, combat jusqu'à épuisement de ses munitions. Il est blessé, puis achevé.
C'est peut-être le premier mort du débarquement ? J'ai fait une belle jambe.
Émile Bouettard n'est pas le premier mort du débarquement. Deux parachutistes anglais ont été tués un peu avant lui, mais il est le premier mort parmi les 3000 Français du jour J.
Et un hommage lui sera donc rendu à lui et à tous les autres combattants dès ce matin, 8h30 à Colville-sur-Mer, en présence d'Emmanuel Macron et de la chef du gouvernement britannique Theresa May. Commémoration avec les Américains ensuite, en fin de matinée aux côtés de Donald Trump. Les conditions politiques ne sont aujourd'hui pas réunies. Fiat Chrysler retire sa proposition de fusion avec Renault. Le groupe automobile italo-américain regrette la lenteur de la décision au sein du gouvernement français. On assume de nous donner le temps nécessaire et approprié pour travailler, répond ce matin le ministère de l'économie dans un communiqué. La fièvre ne faiblit pas dans les urgences qui sont en grève depuis plus de 2 mois maintenant. D'abord, concentré sur les hôpitaux de l'AP-HP à Paris, le mouvement s'est étendu à toute la France. La ministre de la Santé reconnaît qu'une cinquantaine d'établissements sont mobilisés quand les syndicats eux en dénombrent bien plus. Agnès Buzyn se dit prête à recevoir les urgentistes. Or, aide-soignants et infirmières affirment que le terme urgentiste désigne seulement en général les médecins. La communication a donc du mal à passer et le collectif Interurgence a le sentiment de ne pas être entendu. L'une de ses porte-paroles s'appelle Candice Lafarge. Elle est aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine à Paris depuis 6 ans et milite chez Sud. Tara Schlegel a pu la joindre avant la mobilisation nationale prévue ce jeudi. Elle est très remontée donc contre la ministre Agnès Buzyn.
J'affirme qu'elle ne nous entend pas. Ça va faire 3 mois qu'on est dans un mouvement de grève, qu'il y a en représentativité nationale, si je ne me trompe pas, 120 hôpitaux publics. À l'heure actuelle, il y en a 82 qui sont touchés par la grève, par ce mouvement de grève et de revendication. Il serait bien que Madame Buzyn s'exprime aux bonnes personnes, à savoir aux infirmiers et aux aides-soignants de terrain. Donc sur un plan national, les revendications de redoter les services d'urgence d'effectifs immédiats, de nous donner des moyens techniques sur le terrain pour pouvoir soigner correctement nos patients, donc la sécurisation de nos locaux, avoir du matériel adéquat et suffisant. Et la troisième revendication du collectif Interurgence est la reconnaissance de la spécificité du travail aux urgences via une revalorisation de salaire de 300 euros par mois.
Et pour ces revendications, une manifestation est donc prévue ce jeudi de Montparnasse jusqu'au ministère de la Santé à Paris. Les services d'urgence de toute la France doivent y monter. Le parti Les Républicains serait-il en train de s'émietter? 3 jours après le départ de son chef de file Laurent Wauquiez, c'est une figure de l'aile modérée du parti qui s'en va. Valérie Pécresse annonce qu'elle quitte Les Républicains. La présidente de la région Île-de-France veut tirer les leçons du naufrage électoral de la liste de Bellamy aux européennes. Elle estime, Rosalie Lafarge, ne plus avoir les moyens de changer le parti de l'intérieur.
Oui, depuis des mois, elle dénonce la stratégie Wauquiez. Maintenant qu'il a quitté la tête du parti, Valérie Pécresse, elle, quitte le parti tout court.
Nous venons d'essuyer une défaite cinglante. Je crois que nous devons refonder la droite. Elle est menacée d'extinction et il faut se remettre au travail. Mais, en femme libre, j'ai décidé de quitter Les Républicains.
En femme libre, libre comme le nom du mouvement lancé par Valérie Pécresse il y a 2 ans, justement pour imposer sa ligne à droite entre la droite trop de droite de Laurent Wauquiez et le progressisme incarné par Emmanuel Macron, et pourquoi pas ainsi tracer son chemin vers la présidentielle de 2022.
J'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé, et quand je dis cadenassé, je dis verrouillé de l'intérieur. J'ai été de tous les combats, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut tout rénover du sol au plafond et que ça se fera en ouvrant les portes et les fenêtres. Et ça, aujourd'hui, les Républicains ne le veulent pas.
Voilà qui fera plaisir à Gérard Larcher, le président du Sénat, aux manettes d'une tentative de réunion de la droite et du centre. Valérie Pécresse y était, elle dit l'avoir prévenue d'ailleurs, tout comme Nicolas Sarkozy.
J'étais bien dans l'Union pour un mouvement populaire. Elle était gaulliste, elle était libérale, elle était sociale. Elle correspondait exactement à ce que je veux porter comme valeur aujourd'hui pour la droite. Je crois que la droite en France est à bien plus de 8%.
Le départ de l'ancienne ministre sarkozyste plonge les LR dans une incertitude encore plus grande, incompréhensible, réagit ce soir Éric Ciotti pour le président LR du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Dans les moments difficiles, on ne quitte pas le navire.
Merci Rosalie Lafarge. Le domicile de Gérard Collomb perquisitionné hier, la mairie également à Lyon. Cela s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet national financier, enquête qui porte sur des détournements de fonds publics présumés au profit de l'ancienne compagne de Gérard Collomb. Les perquisitions ont duré toute la journée hier, Christophe Vincent.
Les policiers ont quitté l'hôtel de ville en début de soirée. Ils ont emporté des documents comptables, notamment des fiches de paye de l'ex-compagne du maire. Les enquêteurs vont maintenant retracer son parcours à la mairie depuis 25 ans. Ils vont aussi examiner sa rémunération, notamment le montant des heures supplémentaires, pour voir si des sommes ont été indûment perçues. Le maire de Lyon a réagi tard dans la soirée. Dans un communiqué, il fait part de son étonnement croissant et il s'interroge sur la période choisie entre les européennes et les municipales. Pour lui, certains étaient au courant de longue date de ce qui s'est produit. « N'ayant rien caché et rien à cacher », conclut Gérard Collomb, « je reste à la disposition de la justice. En 40 ans de vie publique, elle n'a jamais rien eu à me reprocher. Les Lyonnais le savent bien. »
Christophe Vincent à Lyon pour France Culture. Les forces de sécurité mexicaines ont interpellé hier 420 migrants en bloquant la progression d'une caravane d'environ 1200 migrants centra-américains sans papier. Ils venaient d'entrer sur le territoire depuis le Guatemala pour se rendre ensuite aux États-Unis. Une intervention qui a eu lieu alors que les représentants du gouvernement mexicain étaient hier à Washington pour tenter d'éviter l'imposition de droits de douane punitifs. Pour le président américain Donald Trump, ces négociations n'avancent pour le moment pas assez. L'opposition soudanaise rejette le dialogue proposé par l'armée. Lundi dernier, un rassemblement à Khartoum avait été dispersé violemment par les militaires. Le dernier bilan est d'au moins 100 morts. YouTube va désormais supprimer les vidéos faisant l'apologie de la haine, de la discrimination de toutes sortes et du nazisme. Comme Facebook ou Twitter, la filiale de Google avait été très critiquée pour conserver, voire mettre en avant sur sa plateforme des idéologies controversées depuis des années. Et aujourd'hui, elle réplique donc, Loïc Piala.
Menace de boycott des annonceurs, critique des conservateurs qui s'estiment censurés sur les réseaux sociaux, Washington tentait de réguler le secteur, YouTube a présenté sa nouvelle politique dans un contexte tendu pour la Silicon Valley. Les vidéos d'extrême droite seraient parmi les plus populaires de la plateforme avec la musique, le sport et les jeux vidéo. La filiale de Google s'engage à les retirer quand elles iront trop loin. Le site ciblera aussi les comptes négationnistes et n'hésitera pas à priver les chaînes de leurs revenus publicitaires si elles ne respectent pas les règles. Mais avec 720 000 nouvelles heures de contenu mis en ligne chaque jour, difficile de ne rien laisser passer. Et YouTube ne semble pas encore maîtriser son propre règlement. Mardi, le site a annoncé qu'il ne sanctionnerait pas un chroniqueur conservateur aux 4 millions d'abonnés, malgré ses attaques récurrentes contre un journaliste gay latino. Sous le feu des critiques, la plateforme a changé d'avis 24 heures plus tard et décidé de démonétiser son compte.
Le temps sur l'Hexagone ce jeudi, plus calme selon Météo France, avec tout de même une petite instabilité du nord-ouest au nord-est. Ailleurs, le soleil devrait briller avec 13 degrés ce matin à Boulogne-sur-Mer, 16 à Rennes, Paris, Strasbourg, 16 également à Lyon, 17 degrés à Bordeaux, 21 à Nice. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 sur France Culture. Vous revenez dans votre journal des idées sur des élections européennes du 26 mai dernier, lors desquelles les jeunes ont été plus nombreux à voter qu'en 2014. Et certains politistes y voient une tendance de fond.
Oui. Les chiffres d'abord. 39% des électeurs âgés de 18 à 24 ans se sont déplacés, soit 15% de plus qu'en 2014. Et 40% chez les 25-34 ans. Une hausse donc de 10%. Est-ce l'indice question d'un intérêt croissant pour la politique chez les jeunes? Nombreux sont ceux qui ont voté écologiste, on le sait, 25%. Et on sait aussi que la cause est mobilisatrice dans ces tranches d'âge. Mais pour Simon Blin, dans les pages idées de Libération, ces résultats donnent des raisons de ne pas désespérer face à la progression des populistes d'extrême droite sur le continent. Car cette tendance vient démentir le constat d'une génération politiquement apathique, se détournant des principes démocratiques et toujours plus porté vers les leaderships durs. Une étude récente de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, atteste à la fois d'une défiance pour les institutions démocratiques, mais aussi d'un puissant besoin d'implication citoyenne et de renouvellement des cadres d'action. Laurent Lardeux, sociologue et chargé de recherche à l'INJEP, précise que ce n'est pas tant l'intérêt pour la politique qui a évolué, mais la définition qu'on lui donne. On est resté longtemps, dit-il, prisonnier d'une conception de la politique très largement liée à la démocratie représentative. Les réseaux sociaux expliquent cette évolution en partie, appel au boycott en ligne, signature de pétition sur change.org, rassemblement Facebook, coup de gueule sur YouTube. La viralité du web décuple les pratiques alternatives. L'instantanéité d'Internet recoupe celle de l'urgence climatique et à la globalisation des enjeux écologiques. Les nouveaux marcheurs pour le climat répondent par une mondialisation de l'action militante. Même constat d'une évolution de l'engagement politique pour Anne Muxel dans le hors-série du mensuel Sciences humaines Où va la France. N'ayant connu, dit-elle, que les crises sociales, économiques et aussi politiques taraudant la société française depuis une bonne trentaine d'années, les jeunes sont de fait porteurs d'une défiance globale. La sociologue observe un essor de l'engagement bénévole, en particulier dans l'humanitaire, voire dans l'armée pour ses missions de maintien de la paix, et des formes renouvelées de l'esprit civique, moins normatif mais plus contractuel et pragmatique, associant l'ancrage local et l'ouverture sur le monde, ce dont témoigne la diversité de leurs références culturelles. L'économiste Michael Melki rend compte dans Le Point d'une étude menée avec François Facchini qui montre que si les milléniaux, les jeunes nés après 1980, semblent moins attachés à la démocratie, ils souhaitent en revanche davantage de redistribution. Aux États-Unis, par exemple, moins d'un tiers de cette génération pense qu'il est essentiel de vivre en démocratie, un phénomène qui a amené les politistes Robert Foa et Yascha Mounk à parler d'une forme de déconsolidation démocratique venant menacer la stabilité de nos démocraties. Mais parallèlement, relève Michael Melki, d'après un sondage américain Gallup réalisé en 2018, les jeunes américains sont devenus bien plus favorables au socialisme que ne l'étaient français les générations plus anciennes, y compris au même âge. Il semble même être plus favorable au système socialiste qu'au capitalisme. En effet, seuls 45% des jeunes Américains entre 18 et 29 ans ont une vision favorable du capitalisme, alors qu'ils sont 51% à avoir une opinion positive du socialisme. Même tendance en Europe, ce qui fait dire aux deux économistes que si l'on prend en compte le fait que les plus jeunes générations pensent de moins en moins que les libertés individuelles sont un aspect essentiel de la démocratie et sont de plus en plus favorables à un dirigeant fort qui n'a pas à se soucier des élections, la vision traditionnellement libérale de la démocratie semble laisser place à une vision égalitariste et redistributive. Et d'expliquer le recul de l'adhésion à la démocratie chez les jeunes par le fait que les démocraties sont perçues comme ayant échoué à garantir une certaine forme de justice sociale. Une analyse que confirme cette autre donnée, les plus jeunes cohortes, uniquement aux États-Unis, sont aussi davantage favorables à une intervention plus importante de l'État dans l'économie, notamment au moyen des nationalisations. Un renforcement des valeurs socialistes qui peut s'expliquer par le fait que les millénials croient moins que les autres générations dans la théorie du ruissellement, selon laquelle la richesse nationale peut croître de manière qu'elle profite à tous. Sur le site AOC, le politiste Pierre Martin revient en détail sur les résultats des européennes qui confirment les transformations du paysage politique français. Mais selon lui, à y regarder de près, il n'acte pas complètement la fin du clivage droite-gauche théorisé par La République En Marche et le Rassemblement National. Un nouvel espace politique s'est ouvert à gauche dans lequel l'effondrement de la France insoumise ouvre de nouvelles perspective politique. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, la relation transatlantique États-Unis-Union Européenne.
C'est ça, vous l'avez entendu avec Donald Trump aujourd'hui en Normandie pour les commémorations des 75 ans du débarquement. Il termine en France une mini-tournée politico-commémorative après 3 jours de visite d'État au Royaume-Uni. L'occasion de réaffirmer et de sonder aussi la profondeur de la relation transatlantique, peut-être de mesurer l'influence américaine en Europe. Eh bien, on voit ça avec vous, Jeff Hawkins. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes ancien ambassadeur des USA à Bangui, ancien consul général à Lagos, chercheur associé à l'IRIS. Alors d'abord, le Royaume-Uni, avant de parler de l'Union européenne, est-ce que Churchill appelait la relation spéciale américano-britannique? C'est une visite, la deuxième de Donald Trump au Royaume-Uni, plusieurs fois reportée. La dernière fois, c'était quand même juste une visite de travail. Est-ce qu'on peut dire que c'était une visite plus attendue au Royaume-Uni que souhaitée par la Maison-Blanche ?
Non, je pense que de part et d'autre, c'est important, certainement pour Theresa May, qui a ses propres problèmes. Elle cherche à s'appuyer sur d'autres relations, et notamment cette vieille relation très importante pour la Grande-Bretagne. Et donc, il y a un intérêt politique certainement pour les conservateurs en Angleterre, et pour Trump aussi, pour se montrer chef d'État, homme d'État, et surtout fêté par les grands de ce monde. Je pense que ça lui plaît. Et il faut constater aussi que les visites d'État telles comme celle-ci sont très rares pour les Américains. Queen Elizabeth, donc la reine d'Angleterre, elle n'en a fait que 3 pour les présidents américains. George Bush, le fils, Obama et puis maintenant Donald Trump. Ça fait très peu dans plus que 50 ans de reine.
Oui, donc effectivement, on pourrait dire que de ce point de vue-là, c'est une bonne manière de s'afficher avec la famille royale, hein, comme on l'a vu pour Donald Trump. Il a rencontré le prince Charles, la reine Elisabeth, Harry également. Quand bien même, quand je dis peut-être pas très souhaité par la Maison-Blanche, la première fois que Trump y était allé, il y avait eu des manifestations très importantes. On sait qu'il est très impopulaire au Royaume-Uni. Je crois que c'est 60-65% à peu près de personnes qui sont contre sa visite, d'après les sondages. Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il a pas à y perdre beaucoup quand même pour son
époque? Non, mais cette contestation, pour lui, c'est pas forcément très important. Et d'ailleurs, il est nié. Dans la conférence de presse avec le Premier ministre britannique, et on lui a posé la question. Il a dit non, j'ai pas vu de manifestation. C'était que des gens qui m'applaudissaient dans tout ça. Mais pour lui, ce qui est important, c'est l'image. Et donc, il y a l'image du président qui est à côté de la reine, à côté de la famille royale, qui est reçu en grande pompe et circonstances. Donc, je pense que politiquement, certainement, ça lui nuit pas. Et en plus, pour un États-Unis qui se positionne peut-être même, je dirais pas l'opposé de l'Europe, mais qui prend ses distances avec l'Europe, un pays comme la Grande-Bretagne qui aussi prend ses distances avec le Brexit et tout ça, ça pour lui c'est totalement logique.
Bon, et quel bilan vous en faites de cette visite au Royaume-Uni? Justement, vous dites bénéfice d'image peut-être, mais il y avait aussi un projet politique dans ce contexte de Brexit. Plusieurs fois, Donald Trump s'est prononcé en faveur d'un Brexit, voire d'un Brexit hard, en promettant, je crois, dès 2017, comme il vient de le faire encore, qu'il y aura un grand accord commercial en cas de Brexit. Mais la première chose, c'est qu'il n'a pas rencontré forcément tous les pro-Brexit ou tous les futurs personnels politiques qu'il aurait voulu rencontrer, ni Jeremy Corbyn, ni Boris Johnson.
Oui, bon, il a rencontré Nigel Farage, donc le chef du parti Brexit, est quelqu'un que Trump a toujours apprécié. D'ailleurs, il a suggéré que Theresa May le nomme ambassadeur aux États-Unis dans le temps et puis négociateur pour le Brexit, ce qui est totalement ridicule, mais enfin bref. Mais effectivement, Boris Johnson n'a pas souhaité le rencontrer. Et même si Trump considère Boris Johnson comme un allié potentiel, je pense que dans un contexte de bataille pour le leadership du Parti conservateur, c'est pas le moment pour les acteurs britanniques forcément de rencontrer Trump. Parce que, comme vous dites, il est très impopulaire jusque dans parmi les conservateurs.
Et en tout cas, on a eu l'impression que, comme on l'avait dit d'ailleurs pour la visite au Japon, Londres s'est plié en quatre sur le protocole. Encore une fois, visite avec la famille royale, protocole qui a été plus ou moins bien respecté par Donald Trump. Est-ce que c'est ce fameux accord commercial qui est en jeu, qui est si important que ça pour les Britanniques, sachant que je crois il y a déjà une bonne imbrication des économies, à peu près 54-55% d'investissements croisés réciproques déjà.
Oui, non, il y a ça, mais c'est une Grande-Bretagne qui s'isole volontairement, donc qui se sépare de l'Europe et tout ça, est forcément à la recherche à des partenaires importants. Dans un contexte où il y a déjà une relation très forte entre les États-Unis et les Anglais, c'est naturel qu'ils se penchent de ce côté-là. Mais un accord commercial, c'est pas forcément pour demain non plus. Et donc, je pense que c'est plutôt politique qu'économique pour le moment. On verra par la suite.
Et pour le coup, est-ce que c'est pas là que Donald Trump aurait quelque chose à y perdre, sachant que c'est une relation commerciale, une des rares qui est excédentaire pour les États-Unis, je crois.
Mais non, je pense que si ce négocie quelque chose, ça va pas forcément changer la donne économique. Et ce qui est important pour Donald Trump, c'est pas forcément le fond. Et on l'a vu avec des négociations avec les Canadiens, les Mexicains et autres. Je veux dire, ce qui est important, c'est de dire oui, moi, le grand négociateur, le grand homme d'affaires, moi, j'ai négocié un deal avec les Mexicains ou les Anglais, peu importe. Et donc, du moment où il peut signer quelque chose, je pense que pour Donald Trump, c'est bon.
Et alors, autrement que formellement de cette relation spéciale, qu'est-ce qu'il resterait aujourd'hui dans ce contexte?
Non, mais c'est une relation très importante. Il y a déjà l'alliance transatlantique. L'Angleterre reste une puissance militaire importante, une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité. On a une relation économique très étendue avec la Grande-Bretagne. Sauf que c'est seulement notre septième partenaire dans le commerce, dans les échanges commerciaux. Donc même si le côté finance est très important, c'est un peu moins important, mais ça reste quand même un partenaire de choix. Et il y a surtout les liens culturels, affectifs, historiques, qui fait qu'on est très lié avec l'Angleterre. Et dans 30 ans de carrière diplomatique, je l'ai vu pratiquement dans tous les pays où j'ai servi. On était très proche des Anglais, même à l'étranger.
Oui, donc toujours un vrai partenariat stratégique. Est-ce que c'est pas là, pour le coup, puisque pour en passer à l'Union européenne, aujourd'hui il va y avoir une rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump à Caen, je crois. Est-ce que c'est pas là qu'il y a le principal point d'accrochage entre les États-Unis et l'Union européenne, la question stratégique, la question de la défense, le fait qu'Emmanuel Macron plaide beaucoup pour une défense défense européenne. On sait que ça a beaucoup inquiété Trump à une époque.
Bon, c'est pas le seul sujet. Comment on sait, il y a le côté stratégique, mais il y a aussi le climat, il y a aussi l'Iran qui est extrêmement important et qui a servi vraiment à diviser les Américains et les Français. On a vu avec la visite de Macron à Washington où il a plaidé en faveur de l'accord avec l'Iran et Trump qui a tout de suite après laissé tomber. Et il y a aussi une potentielle guerre commerciale qui pourrait s'éclater dans les semaines à venir. Donc, il y a beaucoup de sujets et je suis quand même impressionné par la patience du président français vis-à-vis de son homologue américain. Il comprend l'importance de la relation et ne se laisse pas distraire, mais quand même, il y a des différends importants entre les deux pays.
Et avec peut-être, pour la première fois, vous l'avez évoqué, l'Union européenne qui se rebelle face aux États-Unis sur cette question de l'Iran, oui. Puisqu'elle a créé un mécanisme qu'elle appelle ouvertement de contournement des sanctions américaines. Là encore, est-ce que ça ne va pas laisser des traces et est-ce que c'est pas une première dans la relation.
Quand même. Oui, non, mais c'est très important et donc de mémoire, c'est la première fois. Bon, on peut s'opposer à une politique quelconque, mais ériger un mécanisme pour contourner la politique du partenaire, ça c'est assez rare dans la relation transatlantique et Trump. Il en est conscient. Et il y a aussi cette histoire de Huawei et des sanctions que les États-Unis aimeraient encourager, voire forcer l'Europe à faire. Et je pense que là aussi, l'Europe résiste un tout petit peu. Il y a énormément de points de conflit entre l'Europe et les États-Unis.
Et oui, puisqu'à deux reprises récemment, les États-Unis ont mis en garde en quelque sorte l'Allemagne et puis le Royaume-Uni contre un rapprochement avec Huawei. On aura l'occasion d'en reparler, mais merci beaucoup pour vos explications ce matin, Jeff Hawkins. Je le rappelle, ancien diplomate américain à Bangui et à Lagos et chercheur associé à l'IRIS. Merci.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La messe glagolitique de Jan Hatzek, le jeudi 20 juin à 20h à l'Auditorium de Radio France. Yuka Pekka Saraste dirige l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France dans la messe glagolitique composée pour grand orchestre, orgue, chœur et quatre solistes. Mélodies envoûtantes, rythmes sauvages, force vitale, timbres acidulés, douceur surprenante, entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations, maisondelaradio.fr.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Culture Monde, c'est votre magazine international quotidien sur France Culture, avec cette ambition, mieux comprendre comment les grandes questions de notre temps animent les relations internationales.
Elle ne cesse de revenir dans l'actu aux quatre coins de la planète. Cette semaine dans Culture Monde, la corruption, mal du siècle, quelle ampleur, quels mécanismes, quels effets. De la corruption, stratégie d'influence, à la corruption dans le sport de haut niveau et les moyens de lutter contre elle. Culture Monde, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Et sur France Culture tout court, il est 6h57, c'est l'heure des matins.
Mais
présentés.
Oui, bonjour ah. Xavier Martinet, bonjour à
bonjour
toutes et
Guillaume
à tous.
Bonjour, bonjour. Et alors, il paraît que France Culture a entièrement changé ce matin.
Et oui, entièrement changé de place, puisque désormais, alors, on est en D, alors qu'auparavant on était en C. Alors, je sais, c'est peut-être un détail pour vous, mais ça signifie que votre radio a déménagé au sein de la maison de la radio. On est passé de la porte D à la porte C, ou l'inverse d'ailleurs. Depuis 3 jours, les voix qui murmurent à vos oreilles, d'Adèle Von Rett à Marie Richeux, en passant par Olivia Gesbert, les Laurentins et autres Laporte, sont dans les cartons, déambulent dans les couloirs de la maison de la radio, laquelle en comporte beaucoup, à la recherche du scotch, du cap, de l'imprimante ou de l'ascenseur qui marche. Parce que, comme vous le savez, la maison de la radio est ronde. Alors jusque-là, tout va bien. Et jadis, quand mon général l'a inaugurée, on pouvait croire que le cercle était préférable à la droite. Il n'y a pas de sens caché dans ce que je viens de dire. Eh bien, c'était compté sans le rond en travaux, puisque le rond en travaux oblige à avoir un GPS parfait. Comment faire, par exemple, pour aller au 7e de la B à la D? Alors, il faut descendre au 5e à la C, prendre l'ascenseur. Vous traversez la zone de travaux et puis vous remontez juste avant la D. En fait, on n'a absolument aucune raison de construire en rond. D'ailleurs, les maisons bulles existent, mais elles sont quand même assez rares, sauf à faire de la psychanalyse de bazar et à évoquer ce rond qui rappelle la matrice, puisque ce rond accueille des objets ovoïdes centraux à la radio, les studios, et notamment le nouveau studio où nous nous trouvons, le nouveau studio de France Culture. Alors, Toujours sans faire de la psychanalyse de bazar, je me suis toujours dit que les studios de la radio devaient être de petits espaces bien clos parce que ces espaces rappellent d'autres endroits bien clos et protecteurs. Si vous voulez savoir, il m'a toujours paru évident que tous ces gens qui parlent dans le micro ont un rapport compliqué avec la peur. Ils l'aiment, ils détestent la peur, ils en ont peur. Et si l'on n'a pas un vrai rapport avec la peur, alors on ne fait pas de radio parce que parler dans un micro, c'est un peu comme conduire très vite dans la nuit. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en dépit du danger. C'est parce que c'est dangereux que l'on aime faire cela. S'il n'y avait pas ce rapport particulier à la peur, comment expliquer ces doses toujours plus massives de peur que l'on demande, la manière dont chacun cherche à se faire de plus en plus peur au micro, par exemple, quitter la radio pour la scène, ou d'autres activités non pardonnantes. Tous les humains ont peur, certains plus que d'autres. Voilà pourquoi il leur faut à tous de bonnes ondes.